Rebonjour, Rissé Gallet.
Rebonjour.
Et vous êtes chargé de la direction stratégique et politique du Centre Régional des Musiques Traditionnelles en Limousin. Et vous proposez des chroniques sur les ondes de Bram FM que les auditeurs ont peut-être entendues le mercredi à 19h. Ces chroniques, et si on parlait musique traditionnelle? Merci d'être avec nous aujourd'hui. En quoi consiste votre rôle au sein du CRMTL?
Alors, on a divisé au CRMTL la direction en deux. Donc, mon collègue Dominique assure une direction financière administrative et moi, la direction stratégique et politique de la structure.
Et en quoi est-ce politique?
D'abord, on exerce une mission de service public. On est un outil au service des politiques publiques liées aux musiques traditionnelles sur l'ex-Limousin et sur la Nouvelle-Aquitaine en général aujourd'hui. Et comme j'ai aussi la responsabilité artistique de la structure, l'artistique c'est du politique. Et comme on travaille aussi beaucoup territorialement, la question du territoire c'est une question politique.
Ce matin, en préparant l'émission, j'ai retrouvé une interview de vous datant de 2018 et vous parlez des droits culturels. Qu'est-ce que sont les droits culturels, Rissé Gallet?
Ah oui, c'est un sujet qui m'importe beaucoup, qui nous importe beaucoup au CRMT. C'est une partie des droits humains fondamentaux qui sont présents dans un grand nombre de textes internationaux et qui sont rentrés dans la loi française par 4 lois dans la dernière et très récente, et qui consistent à sortir de l'accès à la culture classique pour dire que chaque personne est contributrice de culture et qu'il est important de travailler sur les questions de liberté, de dignité, de capacité des personnes. Et que la culture, ce n'est pas simplement quelque chose qui nous nourrit ou dont on se remplit, mais que c'est ce qui nous permet de faire humanité ensemble.
Par son patrimoine, vous voulez dire?
Alors nous, on l'aborde par l'angle du patrimoine, puisque c'est notre objet de travail quotidien. Mais ça, c'est une vision de la culture qui est très large, c'est-à-dire ça, qui englobe nos modes de vie, la religion, les façons de penser, le sport, la façon d'habiter. Et quand on pense à la personne et à cette vision très large de la culture, eh ben on voit comment ma vision de la culture, ce que je pratique, me permet d'entrer en relation avec une autre personne.
Et donc c'est quelque chose que vous défendez? C'est un droit à défendre aujourd'hui?
Oui, c'est un droit à défendre, c'est pas toujours évident. Il ne faut pas non plus qu'il soit retourné ou qu'il y ait une espèce de mode. Mais en tout cas, nous, c'est vraiment le fondement de notre action au quotidien. C'est-à-dire que tout notre projet et notre bilan et l'évaluation de nos actions est construit là-dessus, sur une façon de dire comment on essaie d'être davantage dans la co-construction, dans la participation des personnes, dans la contribution des personnes, et pas de « il y a quelques personnes qui savent et qui proposent un programme culturel pour des personnes qui viennent les voir ».
Le CRMTL a pour but aussi de permettre une meilleure connaissance et appropriation des territoires du Limousin, vous le disiez, au sein de la Nouvelle-Aquitaine, au travers des musiques traditionnelles et des cultures qui y sont liées. Ces champs d'action sont très variés. Le CRMTL se veut garant aussi d'une mémoire collective et d'une transmission pour celles et ceux qui cherchent des informations sur le sujet. Alors comment est-ce que vous procédez ?
Alors, on est toujours ouvert, hein, parce qu'on exerce effectivement, on est une association, on est 1901, mais qui exerce une mission de service public sur fonds publics essentiellement. D'abord, on a des locaux physiques dans la mairie de Seillac, donc il y a parfois des personnes qui passent. Et puis, on a un site internet qui est très consulté avec un agenda qui est très rempli. Et donc, on peut être amené à répondre à toute demande d'une personne qui a envie d'organiser un bal, qui cherche un instrument particulier, qui a entendu parler d'eux, qui connaît que son grand-père chantait ou jouait d'un instrument particulier et veut avoir des renseignements sur cet instrument. Les demandes sont très variées. On travaille beaucoup dans la co-organisation avec d'autres structures à l'échelle du Limousin qui viennent nous solliciter parce qu'elles aimeraient programmer ou qu'elles cherchent une esthétique particulière.
Et vous faites aussi de la collecte. On va écouter d'ailleurs un titre que vous m'avez conseillé. On l'écoute et on poursuit cette interview juste après pour parler de cette question aussi de la collecte des musiques traditionnelles.
Et sur la route de les un petit mouillé, Dieu qui est mouillé, les un moulinier, et un pochon de chasseur, et un de chez moulinier, ça vous dit en pas un valet, père Fabien à votre mouillé. Ma petite valet, y en a eu, tant qu'il n'est chez contente. Ma petite valet, y en a eu, tant qu'il n'est chez contente. Mes pétaches, mes dourdaches, mes coups durs, mes mots durs, mes failles vivre à mon mouillé, arrivé trop bon et m'bon valet. Il m'invite à choupin, misaine pour la grâche. Il m'invite à choupin, misaine pour la grâche. Et mi foutaine en pleine tâche, dans qui Dieu de la cousache, dans Dieu t'in le blanc vendant, et le mouillé vira.
Léon Perra, un enregistrement qui date de 1979, dessus la Rota del Lonzac. C'était un titre que vous avez choisi, Rissé Gallet. Pourquoi celui-ci ?
Parce que Léon Perra, alors là je l'ai choisi sur un air où il chante, mais c'est un grand violoneux, et c'est un violoneux emblématique de cette période de collecte des années 70-80, et c'est vraiment une figure tutélaire aujourd'hui de la musique et la tradition très forte de violon corrèze. Donc Léon Perra, il est de Saint-Salvador, et c'est un des violoneux majeurs, et on vient d'accueillir par exemple cette semaine un couple de Canadiens dont on a découvert un peu par hasard, parce qu'ils sont venus nous rencontrer sur la Nuit de la Borée au mois de janvier, et c'est un couple de Canadiens qui connaît toute l'œuvre, mais absolument par cœur, de Léon Perra, qui a sorti un album qui est en ligne, que de cette musique-là, et ils sont quelques férus au Canada, et ils sont capables de faire 8 heures de voiture pour aller à Washington pour jouer avec d'autres violoneux à Washington, et ils ne jouent que le répertoire des Monidières.
Alors vous avez parlé très brièvement de cette collecte, comment elle s'est faite cette collecte justement ?
Alors elle s'est faite, l'histoire, c'est ça part, on a un web documentaire sur le site qui s'appelle Violon Populaire en Massif Central qui raconte un peu cette histoire, que je vous invite à aller voir. Elle s'est faite en fait par de jeunes musiciens, plutôt des urbains, qui jouaient plutôt de la musique d'Écosse ou d'Irlande ou du Québec et qui se sont dit, bah, on joue ces musiques populaires d'ailleurs, mais est-ce qu'il n'y a pas ça sur le sol français ? Et qui donc ont entamé un travail dit de collecte, c'est-à-dire qu'ils sont venus dans les campagnes pour retrouver des musiciens qui soit avaient arrêté de jouer, soit qui jouaient encore, soit qui n'avaient plus qu'une pratique personnelle mais plus de pratique publique. Et puis, une fois qu'on en a trouvé un et qu'on tire le fil, on connaît aussi quelqu'un qui connaît quelqu'un qui jouait aussi du violon ou qui chantait ou qui joue de la vielle ou de la cornemuse. Et puis, ce travail de collecte se fait et il continue à se faire encore aujourd'hui.
Cette collecte est, comment dire, ces archives, elles sont accessibles à toutes celles et ceux qui souhaiteraient s'en inspirer ou s'en servir aujourd'hui pour la création. C'est aussi un des buts du CRMTL.
Alors oui, on travaille beaucoup sur la question de la création contemporaine. Et effectivement, c'est un matériau qu'on met à disposition. Alors soit par des publications, l'extrait qu'on vient de passer, il est sur un disque sorti il y a déjà quelques années qui est disponible aujourd'hui sur notre site qui s'appelle Chanteurs et musiciens en Limousin. Mais on a aussi un espace sur le site qui s'appelle Ressources sur lequel il y a les archives sonores. Et donc il y a une base interrégionale du patrimoine oral qui est une base nationale. Et donc on est un certain nombre de structures à enrichir cette base. C'est-à-dire, chaque fois qu'on nous apporte un enregistrement, on le travaille, on le documente et on le met en ligne à disposition de qui veut aller fouiller. Et on s'aperçoit, ben, comme l'exemple que je donnais, que des Canadiens sont capables de passer des heures sur cette base et d'aller chercher et télécharger des airs qui leur plaisent.
Dans les champs d'action du CRMTL, il y a bien sûr l'éducation artistique et culturelle, l'initiation et la formation en musique traditionnelle par l'organisation d'ateliers, de conférences thématiques et la proposition d'un catalogue de formation. Vous proposez aussi, Rissé Gallet, une chronique qui s'appelle « Ici, on parle des musiques traditionnelles » diffusée sur Radio Pays de Guéret aussi, bien sûr, parce qu'elle est diffusée sur Bram FM le mercredi soir. Comment est-ce qu'elle vous est venue, cette idée de chronique ?
Alors, il faut rappeler qu'on a deux établissements, donc nos bureaux de CEIAC, on a aussi un établissement à Bourganeuf, en Creuse. Et donc, c'est une sollicitation qui est venue de Radio Pays de Guéret, qui avait envie de mettre un peu la lumière sur cette esthétique-là. Et donc, on m'a proposé de faire cette chronique qui est soit hebdomadaire, soit tous les 15 jours. Où j'ai carte blanche pour parler de ce sujet et de ce dont j'ai envie de parler.
Et le médium aussi de la radio, en quoi c'était intéressant pour vous ?
Parce qu'il me permet d'être sur une antenne qui est très généraliste. On sait qu'il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à ces musiques, à ces danses sur lesquelles on travaille. Et en même temps, il y a une forme de confidentialité dont il faut bien avoir conscience. Donc d'être sur des médias qui ne sont pas spécialisés sur ces esthétiques, c'est pour nous le meilleur moyen d'aller toucher des personnes qui découvrent un monde entier. Et on se rend compte, puisque ces chroniques sont ensuite mises sur notre site, on voit les taux de consultation, qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui vont même chercher le contenu, les références, voir où j'ai sorti un disque ou un son et qu'ils ont envie de le reprendre.
Je vais divulgâcher le thème d'une de vos prochaines chroniques de deux mêmes, parce que c'est en deux parties. Je crois que les auditeuristes ne l'ont pas encore entendu ici sur Bram FM. J'avais très envie de parler de ce sujet avec vous. Deux chroniques sur les femmes dans la musique traditionnelle. Pourquoi était-ce important pour vous de parler de ce sujet ?
Ben parce que les musiques traditionnelles, elles appartiennent aux musiques actuelles, elles sont rangées dans la catégorie ministérielle des musiques actuelles, et on assume et on revendique cette place. Et comme les musiques actuelles en général, c'est plutôt des milieux qui se disent très ouverts, sans aucune barrière, mais on s'y rend compte que la place des femmes n'est pas acquise, qu'il y a des modèles de domination, que malgré tout, sur les programmations, aujourd'hui, il y a très peu d'événements qui arrivent à faire des programmations paritaires, qu'il y a des festivals ou des soirées entières où il n'y a pas une femme au plateau, et que comme dans toute l'esthétique musicale en général, les filles et les femmes sont plutôt majoritaires dans les centres de formation. Et puis que quand on arrive à la professionnalisation et qu'on arrive au plateau, elles deviennent minoritaires, voire très minoritaires. Donc ça fait partie de nos engagements. J'en ferai régulièrement. Parce que souvent, même mes collègues programmateurs me disent parfois « Mais oui, mais moi j'aimerais bien, mais il n'y a pas de proposition. » Ben, ça, ce n'est pas vrai quand on se donne un peu de mal et qu'on regarde. Il y a des propositions, il faut les soutenir parfois, parce qu'effectivement, on a tendance à faire tous la même chose. On programme ce qu'on voit. Donc si on ne voit pas, on ne programme pas.
L'invisibilisation, et c'est aussi, est-ce que dans vos collectes, vous avez eu aussi ce question de l'invisibilisation des femmes, ou est-ce que dans les collectes, au contraire, vous avez autant d'hommes et de femmes qui ont choisi et accepté comme ça de vous livrer leur mémoire de musique traditionnelle?
Alors, on n'a pas du tout ça, parce que dans les collectes, c'est des collectes, c'est très genré, c'est-à-dire que, notamment sur les collectes instrumentales, il n'y a pas de femmes, ou quasiment pas de femmes, un petit peu plus sur les collectes vocales, ou sur la mémoire orale en général, mais toutes ces collectes dont on parle et qu'on valorise des années 70-80, c'est sûr que le ratio homme-femme, il est très 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 déséquilibré. Il y a un rôle qu'il faudrait prendre le temps de travailler, c'est celui de la femme d'eux, c'est-à-dire que si on prend Léon Peyrat par exemple, qu'on a entendu tout à l'heure, sa femme Nini, elle était là, et ça veut dire qu'à la moindre défaillance d'un air ou d'un couplet, etc., on entend dans l'enregistrement, elle relance juste la parole du couplet qui manque, et c'est parti. Et en fait, la mémoire, c'est elle qui l'a aussi. Et ces femmes, elles étaient très présentes dans ce rôle-là, mais elles ne sont jamais en avant. Et donc ça, sur les collectes, on ne peut pas revenir sur l'histoire. On peut au moins travailler l'interprétation contemporaine de ces collectes et comment on se les réapproprie.
Comment est-ce que vous construisez vos chroniques? Comment est-ce que vous cherchez? Quels sons vous choisissez? Comment est-ce que vous... Voilà, quelle est votre part de création radiophonique?
Alors j'ai une totale chance, c'est qu'on me laisse totale carte blanche et que j'assume, et je le dis en général dans les textes, c'est que j'assume la totale partialité complète de ces chroniques, de mes choix. Je passe des choses que j'aime bien. Voilà, donc j'essaie de faire des sujets soit sur des thématiques précises, ça peut être sur des danses, j'en ai sur la mazurka, sur la sautière, je peux en faire sur un instrument, je peux en faire sur une réalité, sur une thématique. Et après, alors j'essaie de varier, justement, je suis sensible, je fais attention à la question de pas programmer que des garçons, que des hommes. Donc ça, déjà, c'est une vigilance que j'ai tout le temps, même sur les chroniques qui ne sont pas spécialisées sur la place des femmes. J'assume parfaitement de prendre des choses que j'aime bien.
Voilà. Et puis, vous essayez de varier entre musique et danse, même si, évidemment, dans la musique traditionnelle, ce sont deux... médium qui s'imbrique l'un dans l'autre. Mais alors, comment vous choisissez justement entre la danse, la musique, les chants?
Dans une chronique, je peux passer à peu près 3, 4, voire 5 extraits, donc c'est pas beaucoup non plus. Donc en général, j'en ai trop. Et après, je fais un choix en essayant de varier justement soit sur les aires géographiques, soit sur les générations, de passer aussi parfois de la collecte, parfois de l'interprétation très contemporaine. D'aller chercher aussi des sons que les personnes ne connaissent pas ou des esthétiques qui sont moins présentes, comme les musiques de création contemporaine à partir de ce matériau. Et parfois même des choses qui peuvent défriser l'oreille, jusqu'aux musiques électroniques, défrisent l'oreille pour notre réseau parfois. J'aime dire entre des choses qui me semblent plus faciles d'accès, d'autres dont j'assume la radicalité artistique.
Quelles sont les grandes actualités ou les grands événements un peu du Centre Régional des Musiques Traditionnelles en Limousin pour cette année 2023?
Alors on est en train de travailler, mais on viendra en parler, sur la création d'un lieu. Donc on travaille sur la création d'un lieu à Chambolive qui s'appelle La Base, village de Bazogour de Chambolive, avec Lost in Traditions et un collectif de cirque qui s'appelle La Dérive. Donc ça, c'est un gros projet assez structurant, parce que c'est la première fois qu'on va s'équiper d'un lieu dont on a les clés aujourd'hui et dont on a commencé la remise en état via des chantiers participatifs. On fait aussi pas mal d'événements de programmation directe, ce qu'on faisait moins ces dernières années, c'est-à-dire qu'on prend des événements qu'on porte nous-mêmes. On était vraiment beaucoup dans la coproduction. On a tendance à en porter certains. Et donc, je peux parler de cet été, on aura au mois de juillet un événement autour du violon, qui s'appelle Violon des Monédières. Et puis, on refera au mois de septembre, on est en train de travailler sur cet événement, des journées du matrimoine, avec des, là aussi une programmation uniquement féminine et avec des temps de formation sur ces questions des violences sexuelles et sexistes et puis de la place des femmes en général dans le milieu artistique.
J'en reparlerai juste après la pause musicale. Évidemment, le CRMTL soutient aussi le spectacle Vers la ville qui est actuellement en tournée, qui sera au Chastan ce week-end. J'en reparle juste après. On va faire une pause en musique pour terminer cette interview avec le bourgeois et le paysan de Farem Todd Pétard. On en reparle juste après. On l'écoute. Le bourgeois et le paysan de Farem Todd Pétard sur Bram FM. Rissé Gallet, vous êtes mon invité jusqu'à 13h30, il nous reste peu de temps. Vous êtes chargé de la direction stratégique et politique du Centre Régional des Musiques Traditionnelles en Limousin. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire Farem Todd Pétard ?
Oui, on va tout faire péter.
On va tout faire péter. Et surtout faire péter le plancher en dessous des pieds des danseurs de bourrée. Cet album, il a été construit aussi grâce aux recherches du CRNTL.
Oui, il a aussi été reçu en résidence artistique, puisqu'on a une activité de résidence. Donc, on a accueilli une partie du travail de création en Creuse, à Feltin. Voilà les caractéristiques du travail qu'on essaye de mener. C'est-à-dire qu'à partir d'un patrimoine, puisque ce ne sont que des collectes là, qu'on vient d'entendre, une orchestration qui n'existe pas traditionnellement, c'est-à-dire un trio ici notamment avec une mandoline qui n'est pas un instrument très présent dans la tradition chez nous, mais qui à la fois peut aller vers la création et tout en étant très efficace pour la danse par exemple, ça marche impeccable. Donc c'est typiquement ce qu'on aime défendre.
C'est un album qui est sorti l'été dernier. Et puis donc, on en parlait, j'en parlais très rapidement. Il y a le spectacle qui est en tournée vers la ville. Je propose qu'on écoute un extrait d'une interview d'un des artistes qui était au micro de Bram FM le 3 novembre dernier.
Alors, le spectacle, le sujet, c'est autour des migrations. On est parti d'un phénomène migratoire plus ou moins célèbre en Limousin, c'est celui des maçons limousins. Et finalement, à partir de ce socle-là, on a essayé d'extrapoler des situations plus contemporaines et de raconter une histoire des migrations en Limousin. Et du coup, pour ce faire, on est allé notamment à la rencontre des Portugais arrivés de Losada, de Figueras, dans les années 60-70 à Tulle. Et on fait une espèce de jonction, de correspondance entre ces deux histoires. Et on y agrège d'ailleurs une troisième histoire, puisqu'on on a pu rencontrer, même si ça a été plus compliqué au cours des enquêtes qu'on fait, des personnes qui viennent pour actuellement installer la fibre optique. Et voilà, en fait, on travaille autour du déplacement de personnes. Des fois, depuis le Limousin vers l'extérieur, c'est le cas des maçons limousins qui ont construit pas mal de villes en France. Et puis des fois, dans l'autre sens, c'est-à-dire des gens qui viennent dans le Limousin pour le bâtir. Mmh. On travaille sur cette jonction-là.
Robin Méro au micro de Bram FM, c'était en novembre dernier. Ça me rappelle une question que je vous ai posée tout à l'heure sur les droits culturels. En quoi ce spectacle vers la ville questionne le droit culturel justement ?
Ben parce qu'il est typiquement en fait construit autour des droits humains fondamentaux, et c'est aussi l'autre question que vous posiez sur la dimension politique. C'est un spectacle fondamentalement politique. On est coproducteur, on a accompagné le travail de création depuis le début de cette création. Et quand moi je l'ai vu il y a quelques jours en Creuse, avec l'actualité dans laquelle on est, ça résonne terriblement, c'est-à-dire que ça dit beaucoup de choses. Et donc c'est l'idée que ce matériau artistique, justement, il nous permet de faire humanité ensemble. Comment on peut, à partir de la place de chacun, de la liberté ou de la non-liberté d'ailleurs, de la dignité ou de l'indignité dans laquelle on peut mettre des personnes, parce que c'était les maçons de la Creuse, c'est pas une histoire très jolie pour la Creuse. Voilà, les ouvriers qui installent la fibre actuellement, je ne ferai pas leur travail. Mais l'équipe artistique, elle a pris ce matériau et elle essaie de rendre toute leur dignité à ces personnes qu'elle a interrogées et qui contribuent aussi à faire le confort dans lequel on vit au quotidien.
Ce spectacle sera donc à la salle des fêtes du Chastan demain à 20h30. Rendez-vous donc pour voir ce conte documentaire joué sur scène. Il tisse le récit commun des travailleurs et travailleuses sans frontières traversant les siècles. Merci infiniment, Rhys Segalet, d'avoir été avec nous pour cette première partie d'émission. Je rappelle que votre chronique « Et si on parlait musique traditionnelle », elle est à retrouver le mercredi soir à 19h sur les ondes, mais elle est aussi à retrouver sur le site de Bram FM. Toute votre actualité et tout ce dont on a parlé pendant cette émission sont à retrouver sur votre site internet du Centre Régional des Musiques Traditionnelles en Limousin. Merci infiniment d'avoir été mon invité pour cette première partie d'émission. Et puis on espère évidemment vous recevoir très prochainement, notamment pour parler de votre projet de la base, mais aussi de tout ce que vous faites au CRMTL. Merci infiniment.